Bonjour, samedi 28 janvier, merci d'être fidèle au rendez-vous. Je vous devine de l'autre côté du micro. Nous allons une nouvelle fois parcourir le monde en revivant les grands moments d'une semaine d'événements.
Une semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Avant de commencer ce nouveau numéro de votre magazine, il nous faut revenir sur une enquête diffusée jeudi soir dans le magazine Envoyé spécial sur France 2. Selon cette enquête, il y aurait un lien entre la libération des otages enlevés en 2010 au Niger et la mort de nos deux amis Ghislaine Dupont et Claude Verlon à Kidal le 2 novembre 2013. Leurs assassins pourraient avoir agi par vengeance après s'être sentis floués dans les négociations pour la libération des otages d'Arlit. L'enquête montre d'autre part que l'ordinateur de Ghislaine Dupont aurait été espionné puis piraté le jour même du drame. Écoutez la réponse de RFI à cette enquête par la bouche de Cécile Mégy, sa directrice.
Ghislaine Dupont et Claude Verlon étaient à Kidal ce 2 novembre 2013 pour la préparation d'une journée spéciale prévue sur les antennes de RFI à la veille de l'ouverture des assises du Nord Mali et des élections législatives maliennes quelques semaines plus tard. Après la libération des otages d'Arlit, survenue le 29 octobre, le jour même de leur arrivée à Kidal, bien sûr, ils ont évoqué cet événement avec leurs différents interlocuteurs sur place, comme l'ont fait l'ensemble de nos correspondants dans cette zone sahélienne, puisqu'il y avait des répercussions de cet enlèvement et de la libération des otages d'Arlit dans la région. Certains témoignages de l'enquête de France 2, certains éléments laissent apparaître des liens entre les opérations qui ont mené à la libération des otages d'Arlit et l'assassinat des deux reporters de RFI. Le documentaire révèle également de possibles manipulations troublantes de l'ordinateur personnel de Ghislaine Dupont. Et ici à France Média Monde, nous sommes partie civile dans l'enquête sur les circonstances de la mort de nos deux collaborateurs. Nous souhaitons que la justice se saisisse de ces révélations et nous mandatons nos avocats afin qu'ils demandent au juge d'instruction de poursuivre les investigations sur ces points afin que les coupables soient arrêtés, soient jugés et soient punis.
Et notez que vous pouvez voir quelques jours encore ce reportage d'Envoyé spécial sur le site de France Télévisions.
Une semaine d'actualité.
Tout en voyageant dans 7 jours d'événements, nous allons en outre nous intéresser à l'ONU aujourd'hui, après l'entrée en fonction d'un nouveau secrétaire général, l'ONU dans la nouvelle ère Trump, qui a commencé donc vendredi dernier. Notre invité est Chloé Morel, spécialiste de l'organisation. Bonjour Chloé.
Bonjour.
Morel, merci d'être à ce micro. Vous êtes historienne, vous êtes l'auteur d'un certain nombre de livres sur les Nations Unies, déjà parce que vous êtes toute jeune, notamment une histoire des idées des Nations Unies, l'ONU en 20 notions, publié chez l'Harmattan en 2015, on en avait d'ailleurs parlé dans cette émission il y a 2 ans, et bientôt une histoire de l'ONU à travers ses secrétaires généraux, l'ONU qui risque bientôt d'être un adversaire du nouveau président américain.
Oui, c'est vrai que l'entrée en fonction du nouveau président américain risque de changer la donne pour les Nations Unies, parce qu'il a décidé tout récemment, là il est en train de mettre en œuvre 2 décrets qui affirment qu'il veut réduire la contribution des États-Unis aux organisations internationales en général de 40%, et notamment de l'ONU, et en particulier réduire totalement la contribution si une organisation approuve l'avortement ou si elle reconnaît la Palestine. Donc, par exemple, l'UNESCO, qui a reconnu la Palestine, se voit vraiment menacée de n'avoir plus du tout de financement américain. Or, les États-Unis sont le pays qui finance le plus l'ONU. Ils financent 22% du budget de l'ONU et 28% du budget des opérations de maintien de la paix. Donc, c'est un grave risque pour l'ONU de se retrouver coupée de financement.
Alors, nous allons reparler des Nations Unies et des États États-Unis, Chloé Morel. Il faut d'abord rappeler que les Nations Unies ont désormais un nouveau secrétaire général.
Oui, Antonio Guterres, qui a été élu secrétaire général il y a peu, à la surprise générale, puisqu'on pensait que ça serait quelqu'un de l'Europe de l'Est, puisque la Russie voulait un candidat d'Europe de l'Est.
Avec une nouvelle procédure de sélection.
Oui, pour la première fois, il y a eu plus de transparence, c'est-à-dire que les différents candidats, ils étaient environ 8 ou 10, ont pu s'exprimer devant l'Assemblée générale de l'ONU pendant 2 heures chacun et répondre aux questions des délégués. C'était nouveau, c'était plus transparent qu'auparavant, mais quand même, c'est toujours le Conseil de sécurité qui garde la haute main sur la nomination du secrétaire général, et en particulier les 5 membres permanents dotés du droit de veto, la France, les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie et la Chine, qui en fait, de facto, ont le pouvoir pour décider qui va être secrétaire général. Alors la Russie voulait quelqu'un d'Europe de l'Est, de culture slave, et finalement, au dernier moment, la Russie a accepté de s'abstenir, c'est-à-dire de permettre la nomination du Portugais Antonio Guterres, qui est quelqu'un d'intéressant par son charisme et ses qualités.
Alors nous allons reparler de lui parce qu'on attend beaucoup finalement de lui, et par contraste, son prédécesseur Ban Ki-moon n'aura pas laissé un grand souvenir.
Oui, Ban Ki-moon, avec ses 2 mandats, a laissé un souvenir très terne en fait. Il n'a impulsé aucune idée nouvelle et il était très effacé, manquant de charisme et surtout très soumis aux intérêts des États-Unis. Donc ça n'a pas été du tout un bon signe pour l'ONU, qui s'est vu encore plus marginalisé et rentré dans l'ombre, court-circuité ou remplacé par d'autres instances comme le G7, le G20, l'OCDE ou des ONG ou des fondations privées même, qui parfois empiètent sur les attributions de l'ONU.
Et vous connaissez bien sûr, Chloé Morel, la phrase de Madeleine Albright, qui était chargée des affaires étrangères américaines au temps de Bill Clinton, et qui disait que chez un secrétaire général de l'ONU, elle préférait qu'il soit plus secrétaire.
Oui. Oui, bien sûr. Alors qu'on aurait besoin de quelqu'un qui fasse un peu cette fonction de général de l'ONU pour redorer son blason et la rendre plus active.
Partons sans tarder pour les États-Unis, justement, Chloé Morel. Samedi dernier, nous en sommes restés à la cérémonie d'investiture de Donald Trump. Et tout au long du week-end qui a suivi, une polémique est née à propos de la participation du public à ces festivités d'investiture. Participation moindre que pour les investitures de Barack Obama, ce que n'a pas supporté du tout Donald Trump. Washington Dimanche, Jean-Louis Portet.
La source de son irritation, la presse a montré, photo à l'appui, qu'il y avait moins de monde à sa prestation de serment que lors de celle d'Obama en 2009. Un peu plus tard, un porte-parole furibard fait son entrée dans la salle de presse de la Maison-Blanche et pour son premier briefing donne de faux chiffres sur la participation réelle. Puis Sean Spicer lance aux correspondants:
ces tentatives de diminuer l'enthousiasme de l'investiture sont honteuses et répréhensibles.
La polémique fait les choux gras des émissions politiques du dimanche. L'animateur de Meet the Press, Chuck Todd, a un sérieux accrochage avec la conseillère du président, Kellyanne Conway, qui refuse de dire pourquoi, pour son premier point de presse, le porte-parole a dit des mensonges. Il a présenté des faits alternatifs, répond-elle. Chuck Todd n'a pu s'empêcher d'éclater de rire, ce qui lui a valu cette réponse de Kellyanne Conway.
La façon dont vous vous moquez de moi est représentative de la façon dont la presse nous traite. Je vais l'ignorer. Je suis au-dessus de ça.
Les journalistes américains aimeraient bien que son patron fasse preuve de la même attitude. Mais ils savent déjà que Donald Trump prendra coup pour coup.
Alors cette semaine, chaque jour ou presque, Chloé Morel, sous les projecteurs, le nouveau président a signé des décrets qui symboliquement reviennent sur des grandes décisions de Barack Obama. Washington toujours, mais cette fois avec Anne-Marie Capomaccio.
Suppression des 3/4 des réglementations, baisse massive des impôts sur les sociétés, ce sont les annonces faites par Donald Trump à quelques chefs d'entreprise réunis dans le bureau ovale. Les patrons de Ford, Dell, Lockheed Martin étaient notamment présents. Le président des États-Unis a employé sa méthode habituelle, alternant promesses et menaces.
Nous pensons pouvoir supprimer 75% des réglementations. Et les taxes vont beaucoup baisser aussi. Donc, vous aurez des incitations. Mais je vous préviens, vous devez rester ici. Ne partez pas, ne licenciez pas des Américains. Ce sont les meilleurs. Et produire à l'étranger, ne l'imaginez même pas.
C'est le credo de la campagne électorale, l'Amérique d'abord, qui est mise en action. Toutes ces réglementations sont, d'après le président Trump, je cite, « des obstacles à la création d'emplois », tout comme le décret que le président vient de signer, concrétisant le retrait des États-Unis de l'accord commercial transpacifique et la promesse de renégocier immédiatement l'ALENA pour l'Amérique du Nord, une renégociation avec le Canada et le Mexique dès la fin du mois, qui inclut, d'après la Maison-Blanche, une discussion sur la sécurité des frontières et la construction du fameux mur entre le Mexique et les États-Unis.
Merci d'être avec nous sur RFI, merci de votre fidélité. Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie de Chloé Morel, spécialiste des Nations Unies et historienne. Rarement on aura vu un président américain qui, dans les premiers jours de son premier mandat, cherche à détruire ce qu'a fait son prédécesseur.
Oui, c'est vrai, et notamment dans la relation entre les États-Unis et l'ONU, on peut craindre vraiment que Trump ne cherche à miner l'ONU, à miner son efficacité. Alors ce n'est pas nouveau que les États-Unis cherchent à affaiblir l'ONU et ses agences. Déjà sous Ronald Reagan, dans les années 80, les États-Unis avaient retiré leur financement à l'UNESCO et à l'OIT, l'Organisation internationale du travail. Et ça avait duré jusqu'au début des années 2000. Depuis longtemps, les États-Unis alternent entre soit affaiblir l'ONU, la rendre inopérante, inefficace, soit la contrôler et y mettre des personnes américaines au poste clé.
La dernière fois, c'était avec George Bush Jr. et les néoconservateurs.
Oui, aussi, voilà. Ça a été vraiment une action d'affaiblissement de l'ONU. Il faut aussi rappeler que les États-Unis, souvent, n'ont pas ratifié de nombreuses conventions de l'ONU, comme la Convention internationale sur les droits de l'enfant de 1989, qui est un texte progressiste, ou encore la Convention de 1990 sur les droits des travailleurs migrants et de leurs familles, et d'autres encore, comme celle sur la diversité culturelle de l'UNESCO. Parce que pour les États-Unis, la culture que défend l'UNESCO, pour les États-Unis, c'est un objet de commerce, c'est une marchandise qui doit servir à faire du profit, alors que pour l'UNESCO, c'est un bien commun auquel tout le monde a droit et pas seulement un objet de commerce. Donc il y a vraiment une différence de conception.
Alors, il faut ajouter que Donald Trump, pour les affaires intérieures américaines, a menacé les villes, ce qu'on appelle les villes sanctuaires, de ne plus leur donner de crédit. Les villes sanctuaires, ce sont les villes qui appliquent une politique de protection des migrants clandestins qui empêchent notamment leur poursuite au seul motif de qu'ils sont sans papier, c'est-à-dire des grandes villes des États-Unis, côte est, côte ouest. Donc, il ouvre un front aussi intérieur. Et puis, il n'aura pas fallu une semaine avant qu'il... Et il ouvre une première crise diplomatique avec le Mexique à propos du mur. Le président mexicain devait aller à Washington la semaine prochaine. Il a annulé sa visite. Voilà un mandat qui commence bien.
Oui, et on voit que c'est en contraste avec la résolution qui avait été votée. Enfin, une des dernières actions de l'ère Obama, c'était le fait que les États-Unis, symboliquement, ne se sont pas opposés à la déclaration du Conseil de sécurité décembre 2016 qui condamne la colonisation par Israël. C'était la première fois depuis 1979 que les États-Unis ne s'opposaient pas à une telle résolution au sujet d'Israël et du conflit israélo-palestinien. Donc là, c'était la dernière mesure de l'ère Obama concernant l'ONU. Et là, vraiment, depuis l'arrivée au pouvoir de Trump, on voit vraiment une rupture.
D'où l'assurance aujourd'hui de Benjamin Netanyahou, d'ailleurs qui a des soucis ces derniers jours encore avec la justice pour corruption. L'assurance de Benjamin Netanyahou de pouvoir continuer, dit-il, la colonisation.
Oui.
Avec
oui.
Donald Trump à la Maison-Blanche. Oui, et d'où l'importance aussi des Nations Unies pour essayer peut-être de décrisper les crises internationales qui vont apparaître.
Oui, on a plus que jamais besoin de l'ONU aujourd'hui, loin d'être devenue obsolète. L'ONU au XXIe siècle est nécessaire parce qu'aujourd'hui, la plupart des grands problèmes auxquels nous faisons face sont des problèmes transnationaux, ce sont des problèmes qui dépassent les frontières étatiques, comme le terrorisme ou la question des réfugiés ou encore l'évasion fiscale ou bien l'environnement, la pollution. Donc tous ces problèmes sont transnationaux, donc c'est pas un seul État qui peut les régler unilatéralement, mais ce doit être les États ensemble, multilatéralement. Donc l'ONU reste d'actualité.
Sept jours dans le monde.
Et destination la Russie maintenant, Chloé Morel. Les députés ont adopté mercredi en deuxième lecture un projet de loi qui dépénalise les violences domestiques en dépit des protestations des militants pour la défense des droits de l'homme, en tout cas ceux qui subsistent aujourd'hui dans la Russie de Vladimir Poutine. Moscou, Étienne Bouche.
Le projet de loi a été très largement soutenu. Seuls deux députés communistes ont voté contre. Pour les parlementaires, ce texte doit permettre de défendre l'autorité des parents. Si vous giflez votre enfant mal élevé, vous risquez jusqu'à 2 ans de prison. C'est l'exemple que prend la très conservatrice Elena Mizulina pour justifier le projet de loi dont elle est à l'origine. Il s'agit de donner une seconde chance aux individus coupables de violences familiales. Pour le président de la Douma, Vyacheslav Volodin, c'est une question de dialogue. Et cette mesure va permettre de renforcer les familles. Un autre argument est avancé, notamment par le député Russie Unie Andrei Isaïev, éviter l'ingérence de l'État dans la famille. Nous connaissons les pratiques monstrueuses qui existent dans un certain nombre de pays d'Europe. Au-delà de la Douma, la mesure est critiquée. N'importe quel alcoolique ou despote pourra battre sa femme, il n'aura qu'à payer une amende. C'est la réaction d'Irina Khakamada, figure de l'opposition libérale. Le texte doit encore être approuvé en troisième lecture par les députés, puis voté par les sénateurs.
La Russie, la Turquie et l'Iran ont trouvé un accord mardi pour consolider le cessez-le-feu en Syrie, mais peu de progrès ont été réalisés en vue d'avancer vers un règlement du conflit au terme des négociations d'Astana au Kazakhstan entre rebelles et émissaires du régime syrien. Muriel Pomponne était sur place.
La conférence de Astana s'est achevée avec une déclaration tripartite, Russie, Turquie, Iran, les trois pays qui ont parrainé ces pourparlers. En revanche, ni le gouvernement syrien ni l'opposition armée syrienne ne sont signataires du texte et ils n'étaient pas représentés dans la salle au moment où le ministre kazakh des Affaires étrangères a lu la déclaration. Les trois pays ont annoncé la mise en place d'un mécanisme trilatéral de supervision de la cessation des hostilités. Pour le reste, ils insistent sur la séparation entre opposition armée et terroristes et soutiennent les discussions politiques qui auront lieu le 8 février prochain à Genève. En dehors de la création de ce mécanisme trilatéral qui inclut l'Iran, la conférence d'Astana a débouché sur peu de choses. L'Iran est impliqué, ce qui est nouveau par rapport au cessez-le-feu du 29 décembre, mais pour la rébellion, c'est la déception. Pas un mot sur les milices soutenues par l'Iran. Pas un mot sur ce qu'ils considèrent comme des violations du cessez-le-feu par les forces gouvernementales, qui, elles, disent attaquer les mouvements terroristes. La Russie est parvenue à imposer une déclaration finale, mais tout reste à faire.
Chloé Morel, la Russie a peut-être réussi à faire en sorte qu'il y ait une déclaration finale, mais la Russie a bloqué tout vote, il faut le rappeler, l'année dernière, notamment sur la Syrie.
Oui,
et
voilà,
sur Alep.
Récemment, là, en 2016, la Russie à 6 reprises a mis son veto à des votes au Conseil de sécurité pour l'arrêt des bombardements en Syrie, et notamment sur Alep. Donc ça a contribué à la paralysie de l'ONU sur cette question.
Et il faut souligner que mettre son veto aujourd'hui, ça a une signification très forte dans l'univers diplomatique.
Oui, le veto, il a été utilisé déjà des centaines de fois, en fait, depuis la création de l'ONU en 1945, et il est un facteur de paralysie de l'ONU. C'est pour ça qu'il y a des projets depuis quelques années, l'idée de le supprimer, ou au moins de le suspendre dans les situations où il y a des crimes de masse qui sont en cours.
Et on en reparlera tout à l'heure, notamment avec la France qui soutient ce projet, Chloé. Et dans l'actualité, il faut aussi noter cet appel de l'ONU par la bouche du chef des opérations humanitaires des Nations Unies, qui met en garde contre le risque aujourd'hui d'une famine au Yémen. 14 millions de personnes sont concernées.
Oui, donc l'ONU fait bien d'alerter l'opinion mondiale là-dessus, parce que c'est vrai qu'il y a des situations dans le monde qui sont critiques et dont on parle peu. Selon l'ONU, il y aurait eu aussi 10 000 personnes tuées dans la guerre au Yémen depuis mars 2015. Donc c'est une situation critique et l'ONU agit. On parle souvent de l'ONU pour dire qu'elle est inactive ou impuissante, mais dans le monde entier, elle agit et souvent elle apporte de l'aide humanitaire par le biais du programme alimentaire mondiale, elle sauve des vies, notamment la faim dans le monde, et elle agit avec ses casques bleus dans plusieurs opérations de maintien de la paix, 16 en cours aujourd'hui, dont 9 en Afrique.
Alors certains regrettent que l'ONU ne soit efficace que dans le domaine humanitaire et aimeraient qu'elle le soit autant sur le plan politique.
Oui, alors pour que l'ONU soit plus efficace, il faudrait donc peut-être supprimer ce blocage du veto et également donner plus de pouvoir aux casques bleus pour qu'ils aient le pouvoir d'imposer la paix aux besoins par la force, jours. C'était ce qui était prévu dans la charte de l'ONU, initialement dans son chapitre 7, mais ça n'a jamais été mis en place parce que tout de suite après la création de l'ONU, il y a eu la guerre froide et les deux grands, les États-Unis et l'URSS, ne voulaient pas donner à l'ONU ce pouvoir important d'être en mesure d'imposer la paix au nom de toutes les nations réunies. Mais aujourd'hui, ça serait utile pour éviter que des conflits ne dégénèrent et ne fassent des massacres et des morts comme il y a en Syrie aujourd'hui avec plus de 400 000 morts.
Chloé Morel, nous allons marquer une pause, écouter quelques nouvelles du monde et on se retrouve dans 3 minutes. À tout de suite.
RFI présent.
Merci pour toutes ces informations. On se retrouve, nous, pour revivre 7 jours d'événements avec les reportages de la rédaction et notre invitée Chloé Morel, spécialiste des Nations Unies.
Une semaine d'actualité.
Parlons un instant de l'actualité française avant de prendre la direction de l'Afrique. Pour Fillon, Pénélope est un bon filon. C'est le titre de l'enquête du Canard Enchaîné mercredi sur l'activité discrète et lucrative de l'épouse du candidat de la droite à l'élection présidentielle. A-t-elle été ou non une vraie attachée parlementaire de son mari? C'est une des questions posées par cette enquête. Julien Chavanne.
Que ce soit à l'Assemblée nationale ou dans le fief de François Fillon, dans la Sarthe, personne n'a jamais croisé d'attaché parlementaire du nom de Pénélope Fillon. À en croire les témoignages recueillis par le Canard Enchaîné, la femme du candidat n'a jamais été connue ou présentée autrement que comme son épouse. Pourtant, de 1998 à 2012, elle a été payée jusqu'à 8000 euros bruts par mois lorsque son mari était député de la Sarthe, puis ensuite auprès de son suppléant Marc Joulot. Une autre collaboratrice employée par ce même député à la même époque reconnaît n'avoir jamais travaillé avec elle. En 2012, Pénélope Fillon devient conseillère littéraire à la Revue des Deux Mondes, une publication propriété d'un homme d'affaires proche du couple. Mais là encore, le directeur de l'époque affirme ne l'avoir jamais vue. Il se souvient seulement avoir vu sa signature sur deux ou trois notes de lecture. Connue pour sa discrétion, Pénélope Fillon se retrouve au cœur d'une polémique qui pourrait fragiliser son mari, lui qui s'affichait comme un candidat intègre pendant la primaire de la droite.
Et la publication de cette enquête a incité le tout nouveau parquet financier à ouvrir une enquête. Franck Alexandre.
S'attacher les services d'un membre de sa famille, comme l'a fait le député de la Sarthe François Fillon, n'est en aucun cas un délit. Sauf bien sûr si l'emploi est fictif. Et dans l'affaire Fillon, le doute plane. Le jeune parquet national financier, pourfendeur cet automne de Jérôme Cahuzac, ne pouvait rester inactif. La procureure Éliane Houlette a donc ouvert une enquête pour détournement de fonds publics, abus de biens sociaux et recel. Les investigations ont été confiées à l'Office central de lutte contre les infractions financières et les enquêteurs vont donc rechercher les traces écrites d'une activité parlementaire et entendre les collaborateurs de François Fillon à l'Assemblée, comme Jeanne Robin-Sombert, cet attaché parlementaire qui déclare au Canard Enchaîné n'avoir jamais travaillé avec Madame Fillon. Les enquêteurs vont aussi scruter les nombreuses déclarations de Pénélope Fillon à la presse, notamment celle où elle assure qu'elle est juste une paysanne se consacrant à l'éducation de ses enfants. Pénélope Fillon devrait être entendue. À l'issue de cette enquête, le parquet décidera si les charges sont suffisantes pour ouvrir une information judiciaire, mais ce sera long et l'enquête préliminaire risque bien de polluer toute la campagne présidentielle du candidat de la droite.
7 jours en France.
Les primaires du Parti Socialiste, maintenant deux candidats depuis le premier tour, dimanche, Benoît Hamon et Manuel Valls, et un taux de participation définitif qui n'a été connu que mercredi. Il y a eu comme un cafouillage, un chiffre décevant, en tout cas 1 600 000 votants. Les représentants des deux gauches s'affrontaient mercredi dernier dans un débat télévisé. Valérie Gaz.
On attendait un match de boxe, on a eu un duel à fleuret moucheté. Manuel Valls n'a pas tenté de rattraper son retard en cognant très fort sur Benoît Hamon. Il a essayé de pointer sans agressivité les faiblesses de son adversaire, notamment en mettant en cause la crédibilité de ses propositions économiques.
Tout ce que propose Benoît Hamon, sans augmentation des impôts, n'est tout simplement pas possible.
Bien moins, j'assume de dire aujourd'hui que l'option politique que je propose est une option qui ne vend pas du rêve, elle propose de la justice.
Benoît Hamon était prêt à répondre sur ce sujet, sur celui de la laïcité aussi. Quand Manuel Valls est monté au créneau, il a riposté.
Aujourd'hui, il y a une revendication politique à propos du voile qui conteste la République. Donc, il faut être capable d'y répondre par la loi, mais par un combat aussi très déterminé.
Une femme librement décide de porter le foulard territoire islamique librement. Et il en existe. Au nom de la loi 1905, elle est libre de le faire.
Les échanges ont montré les différences de fond entre les deux candidats, mais aucun n'a franchi la ligne rouge, même s'ils ont cherché à marquer des points.
Moi, je respecte les règles. D'ailleurs, j'ai toujours respecté les règles. Ce n'a pas toujours été le cas de Benoît au cours de ces deux dernières années.
Respecter les règles, c'est commencer par respecter les programmes sur lesquels on est élu.
Pas sûr que ce débat ait fait bouger les lignes, mais chacun s'est au moins engagé à soutenir le vainqueur.
Suite d'une semaine d'actualité, Chloé Moral, il faut rajouter dans cette affaire Fillon que François Fillon, précisément, a dit que s'il était mis en examen, il ne serait pas candidat à l'élection présidentielle. Et on a tout de suite demandé à Alain Juppé s'il était prêt à partir, lui, si Fillon ne partait pas. Il a dit non, qu'il ne serait pas candidat. Donc, on voit que cet article du Canard enchaîné a fait beaucoup, beaucoup de bruit et a des répercussions politiques qui ne sont pas terminées. Et cette affaire Fillon vous fait penser, là aussi, aux Nations Unies.
Oui, dites-nous pourquoi. Oui, parce que ça me fait penser au scandale qu'il y a eu à propos de l'opération pétrole contre nourriture,
oui.
Une opération de l'ONU en Irak. Et en fait, avec cette opération, il a été révélé que le fils de Kofi Annan et d'autres personnalités à l'ONU ou ailleurs, et même en dehors, avaient touché de l'argent, beaucoup d'argent illégalement.
Sur la vente du pétrole irakien.
Voilà, c'est ça. Et l'ONU qui gère beaucoup d'argent, qui brasse beaucoup d'argent, parce que son budget, c'est de près de 3 milliards de dollars par an. Et le budget des opérations de maintien de la paix, c'est de 8 milliards de dollars par an. Il faut être très vigilant à ce que cet argent soit effectivement bien utilisé.
Alors je voudrais qu'on revienne, Chloé Morel, sur cette initiative que soutient la France, la diplomatie française, initiative de bloquer en quelque sorte le veto au Conseil de sécurité quand une crise humanitaire menace clairement une population. Ça, c'est nouveau.
Ça. C'est ce qu'a proposé la France depuis 2013, ce qu'a proposé Kofi Annan aussi.
C'est la responsabilité de protéger.
Voilà, c'est l'idée de la responsabilité de protéger et que donc le veto qui paralyse souvent l'ONU, on ne pourrait pas l'employer dans les cas où on traite de situations graves ou des crimes contre des populations sont en cours. Donc c'est une bonne idée, il me semble, et c'est un pas en avant vers peut-être la suppression du veto qui paralyse bien trop souvent l'ONU. Ce n'est pas nouveau. Avec la Syrie, on voit qu'il l'a paralysé. Et déjà, dans les années passées, dans les décennies passées, avec la guerre du Vietnam, qui a duré plus de 10-15 ans, la guerre d'Algérie aussi, l'ONU n'a pas pu intervenir à cause de la menace du veto américain, à cause de la menace du veto français. Et ça se reproduit dans de multiples situations.
Et on se souvient aussi que l'ONU n'est pas intervenue lors de génocides.
Oui, comme au Rwanda, en 1994,
ou même pendant le génocide des Khmers Rouges au Cambodge.
Oui, aussi.
Pire, puisque ce sont les Khmers Rouges qui représentaient le Cambodge à l'Assemblée Générale.
C'est vrai. Donc, c'était vraiment un gros dysfonctionnement au problème de l'ONU. Et on pourrait imaginer de surmonter ce problème, de changer les règles de fonctionnement du Conseil de sécurité. Peut-être aussi élargir le Conseil de sécurité à d'autres membres, parce que il apparaît peut-être plus justifié aujourd'hui que ces 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité aient ce privilège d'être tout le temps au Conseil de sécurité et d'y avoir le droit de veto, alors qu'ils ne représentent que 30% aujourd'hui de la population mondiale. Et les pays du Sud sont peu représentés au Conseil de sécurité.
Et il faut rappeler qu'ils reflètent le monde de 1945,
c'est
l'année
ça.
Où a été créé les Nations
voilà,
Unies.
Voilà, ça reflète un monde
vieux d'il y a
70
ans, la Seconde Guerre mondiale.
Les gagnants de la Seconde Guerre mondiale, alors que aujourd'hui, on pourrait attendre que des pays émergents comme le Brésil, l'Afrique du Sud, l'Inde fassent partie de membres permanents du Conseil de sécurité. Kofi Annan avait proposé aussi qu'on mette 2 pays d'Afrique comme membres permanents du Conseil de sécurité, par exemple l'Égypte.
Et il y a 2 pays qui financent aussi beaucoup les Nations Unies, c'est l'Allemagne et le Japon.
Oui.
Eux aussi auraient toute prétention à...
Oui, parce que ce sont des grandes puissances, mais ils étaient les vaincus de la Seconde Guerre mondiale, donc ils n'ont pas été inclus dans ce Conseil de sécurité comme membre permanent.
Il faut s'arrêter 2 secondes, Chloé Morel, sur l'importance d'avoir un siège de membre permanent au Conseil de sécurité. C'est une sorte de privilège, par exemple pour la France.
C'est un immense privilège pour la France. Ça lui donne une stature mondiale, internationale, parce qu'elle siège en permanence à ce Conseil de sécurité. C'est là que sont prises les grandes décisions. Le pouvoir exécutif, c'est là qu'est prise les grandes décisions de l'ONU. Et aussi, avec le veto, elle peut s'opposer à n'importe quelle décision. Ça lui confère un un pouvoir très important et lui permet de conserver son aire d'influence, notamment en Afrique. Voilà, donc on peut imaginer des améliorations à l'ONU, supprimer ou suspendre ce droit de veto, donner plus de pouvoir au casque bleu et donner un pouvoir de sanction pour les pays ou les grandes multinationales qui enfreignent les conventions de l'ONU. Par exemple, les conventions sur le droit du travail, de l'OIT, sur les conditions de travail. Chaque jour, ces conventions sont enfreintes par des grandes multinationales dans les pays d'Asie notamment, où on fait travailler des gens dans des conditions ignobles parfois.
Dites-moi, Chloé, vous voulez pas être la collaboratrice, la conseillère d'Antonio Guterres?
Ah ben, j'en serais ravie.
Vous avez plein d'idées.
Oui.
Une semaine d'actualité.
Partons pour l'Afrique maintenant, Chloé Morel, en Gambie d'abord, avec le retour au pays jeudi du président élu Adama Barrow dans la liesse générale. Reportage de notre envoyé spécial Guillaume Thibault.
Les bras vers le ciel, le poing levé, perché sur son 4x4, Adama Barrow traverse la foule au ralenti. Salim est au premier rang.
Ce que je vois, c'est un homme avec le visage souriant. Il montre que désormais les Gambiens ne sont plus des esclaves. C'est quelqu'un de simple, il est comme nous tous.
Adia a fait 50 kilomètres. Doyenne, elle refuse de donner son âge. Après des années de souffrance, elle n'aurait raté cette communion, cette liesse, pour rien au monde.
Je vois des milliers, des milliers, des milliers de gens, c'est impossible de compter, qui sont venus saluer Barrow, la nouvelle Gambie, la Gambie démocratique. Je suis très très heureuse, plus qu'heureuse même.
Sadana a suivi le cortège depuis l'aéroport, à pied. Son but, accompagner son président jusqu'à sa résidence.
C'est incroyable pour moi, je ne peux même pas le croire. Nous célébrons le président, j'espère qu'il y aura l'égalité et la tranquillité dans notre pays. C'est plus qu'une victoire pour les Gambiens.
Une victoire dans les urnes qu'il faudra désormais rendre réelle. Les Gambiens ont soif de démocratie. Adama Barrow a la lourde tâche de la créer.
Direction la Côte d'Ivoire maintenant, qui connaît un climat social tendu, crise chez les militaires et grève aussi des fonctionnaires dans l'éducation nationale par exemple, d'où la colère des élèves d'école de Boaké qui ont voulu manifester notamment mercredi. Écoutez ce reportage de Sébastien Nemeth.
Très remontés, les élèves bloquent la route avec des troncs d'arbres, des parpaings, des pneus. Ils demandent au gouvernement d'accéder aux revendications des enseignants pour pouvoir reprendre les cours. Et comme Abidjan vient d'accepter de verser 12 millions aux soldats mutins de début janvier, les jeunes se demandent pourquoi eux, on ne les écoute pas.
Parce que nous ne pouvons pas comprendre que des gens revendiquent quelque chose. En moins de deux jours, vous leur donnez 12 millions. Ces personnes-là deviennent des millions. Le gouvernement est en train de nous montrer qu'ils entendent seulement que par la voix forte. Donc nous voulons appliquer la voix forte pour qu'ils puissent nous entendre.
C'est grâce à cette voix que l'État fait des recettes. Et si nous ne partons pas à l'école, franchement, nous sommes obligés de fermer cette voie. On n'a pas le choix.
Ça fait un mois que nous sommes à la maison. Nous craignons non seulement l'année blanche, mais nous sommes très, très en retard sur le programme. Nous sommes l'avenir de la Côte d'Ivoire.
Les élèves ne veulent rien entendre. Les personnes bloquées tentent de discuter, mais sans succès. Elles sont très partagées face à ce type d'action.
Toute la nuit, j'ai conduit. Je sais que tu es à Kologo à minuit. Ça, c'est pas bon, ça salit mon pays. Ça, c'est pas normal.
Il devait aller à Boaké faire une audience ce matin à 8h. C'est qu'il demande au gouvernement qu'il fasse balle après et puis nous allons régler le problème, un coup pour de bon. Et puis on va reprendre la vie.
Soudain, la tension monte avec des chauffeurs, des gendarmes interviennent. On frôle l'affrontement, mais le barrage est finalement levé. Les élèves promettent de recommencer.
Tu vas devoir marcher.
Et il y a aussi des manifestations d'élèves, d'écoliers en Guinée, d'élèves, d'écoliers qui veulent étudier. Alors ça, ce sujet, Chloé Morel, là, je m'adresse à la professeure de lycée et professeure de classe préparatoire, doit vous toucher quand même.
Oui,
des
c'est vrai.
Des élèves qui se manifestent pour pouvoir étudier.
C'est important.
Et je salue d'ailleurs tous ceux qui nous écoutent, les élèves et les étudiants. Je sais qu'ils sont nombreux et je leur souhaite de bon courage.
Oui, bah c'est vrai que le droit à l'éducation, c'est important. Chaque enfant, chaque adolescent devrait avoir le droit à une éducation de qualité. Et dans les pays du Sud, comme en Afrique, aujourd'hui, malheureusement, face à des services publics défaillants d'éducation, on voit l'émergence d'une privatisation d'éducation. Il y a des grandes multinationales qui développent des écoles privées un peu partout en Afrique, en Asie, et qui font en fait du profit sur le dos des habitants. Et il faudrait vraiment rebâtir, renforcer les services publics d'éducation en Afrique, en Asie, partout où on a besoin d'éduquer des jeunes nombreux et qui ont besoin d'être bien formés.
Vous avez déjà vu en France des manifestations d'élèves qui veulent travailler? Pas encore, vous êtes trop jeune. Il faut revenir aux Nations Unies. Je voudrais qu'on insiste un petit peu sur l'Assemblée Générale, qui est l'organe présenté comme le plus important des Nations Unies, puisque universel, regroupant les États membres aujourd'hui, 193, beaucoup disent souvent qu'il faudrait lui donner plus de pouvoir, puisque justement universel.
Plus de pouvoir parce que c'est une assemblée démocratique, parce que chaque État y a une voix, donc c'est vraiment un mécanisme juste. Et les pays du Sud sont majoritaires à l'Assemblée Générale. Il y a eu un basculement autour des années 60. À partir de ces années-là, c'est les pays du Sud, avec les décolonisations, qui sont devenus majoritaires. D'ailleurs, ils se sont regroupés dans le G77. Au début, il y avait 77 membres. Maintenant, il y en a encore plus. C'est tous les pays du Sud. Et menés par la Chine aujourd'hui. La Chine se présente comme le leader de ces pays-là, même si
c'est
une grande puissance aujourd'hui. Mais en tout cas, les pays d'Afrique, ils s'organisent au sein de cette Assemblée Générale, avec les pays d'Amérique latine également qui sont actifs, et on pourrait donner plus de pouvoir effectivement à l'Assemblée Générale, même si beaucoup d'acteurs de l'intérieur, des diplomates, témoignent que c'est une assemblée assez lourde, que voilà, que les délibérations ils sont longues, lentes et difficiles. Mais comme c'est l'assemblée la plus démocratique, il faudrait lui donner effectivement plus de poids, plus de pouvoir.
Et c'est finalement cette assemblée qui régit, qui gouverne l'ensemble des organisations qui tournent autour des Nations Unies dans les domaines humanitaires, notamment.
Par exemple, les domaines humanitaires, il y a le programme alimentaire mondial, le PAM, il y a toute l'action d'aide à l'éducation avec l'UNESCO, d'aide à la santé avec l'OMS, toutes ces agences spécialisées qui tournent autour de l'ONU. Et c'est important que les choses qui soient décidées, qui soient faites par ces agences, ça reflète l'intérêt du plus grand nombre, l'intérêt des pays du Sud qui sont majoritaires en habitants aujourd'hui dans le monde.
Oui, il y a quand même une situation étonnante où l'Assemblée générale, ce sont les pays du Sud qui domine, et au Conseil de sécurité, 5 puissances, donc il y a un déséquilibre.
C'est vrai, il y a un déséquilibre, et souvent, ceux qui prennent les décisions au Conseil de sécurité, sont les grandes décisions, sont des représentants de pays du Nord.
Une semaine d'actualité.
Il nous faut continuer à parler de l'ONU et de l'Afrique. Maintenant, Chloé Morel, avec un rapport de l'organisation sur les violations des droits de l'homme en République démocratique du Congo, Kinshasa, Sonia Orlet.
Selon l'ONU, depuis la signature de l'accord du réveillon, au moins 3 prisonniers politiques ont été libérés sur 167 recensés et 2 médias rouverts sur une quinzaine. Le rapport annuel du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme dresse un tableau très sombre de l'année 2016, une hausse spectaculaire des violations des droits de l'homme à caractère politique, synonyme selon l'ONU d'une restriction de l'espace politique. José María Aranaz est le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme.
L'espace démocratique a été réduit de manière dramatique. Les droits, surtout des 100% de la société civile et des médias, ont été violés d'une manière flagrante dans les grandes villes du pays. Le respect aux droits et libertés fondamentales, c'est une partie centrale de l'accord politique et de la constitution à la RDC. Sans respect des droits et des libertés fondamentales, il n'y aura pas une implémentation, une application crédible de l'accord.
Le directeur du bureau conjoint espère également que le Conseil national de suivi, qui devrait voir le jour d'ici à la mi-février, fera l'évaluation de l'état d'avancée de l'ouverture de l'espace politique, principale garantie selon l'ONU d'un processus électoral crédible.
« terminons notre voyage africain au Mali, cette fois pour parler de la deuxième édition d'un festival qui est destiné à promouvoir les cultures du pays Dogon, mais à Bamako. Reportage d'Anthony Fouchard.
Les falaises de Bandiagara, la mosquée en terre de Djéné ou les bogolans couleur indigo, l'art et l'histoire du pays Dogon sont une des richesses culturelles du Mali, malheureusement de moins en moins accessibles faute de sécurité. Alors il faut exporter la culture, explique Papa Napo.
Alors pourquoi c'est important? En fait, aujourd'hui le Mali est un peu critiqué par rapport à la sécurité. Alors le pays Dogon c'est une zone hyper touristique. Les partenaires, les visiteurs, les étrangers, ils ne veulent pas venir pour une question de sécurité. Donc nous, on s'est dit que la culture peut se déplacer, pour aller montrer dans des endroits sûrs et plus prudents.
Et pour exporter la culture, le festival a vu les choses en grand. Un village Dogon a été reproduit en plein Bamako. Amadoun Kassogué fait partie de l'organisation.
On a reconstruit le village Dogon, on a tout. Tous les ustensiles que les Dogon utilisent sont là. On a les tisserands, on a les vanniers, on a les poteries, on a tout ce que le Dogon faisait dans sa culture.
Donc là, si je vais dans ce village, j'ai l'impression d'être à Bandiagara.
Mais vous n'avez pas l'impression, vous êtes à Bandiagara.
Sans les falaises.
Voilà, sans les falaises.
Des concerts, de la musique traditionnelle et des défilés de masques Dogon, le clou du spectacle, c'est le programme de cette deuxième édition du festival Ogobania.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, merci pour vos messages. Voici quelques petits bonjours, comme chaque samedi à cette même heure. Un bonjour par exemple à Mokhtar qui nous écoute à Richard Toll au Sénégal. Bonjour à Jacqueline, une consoeur qui nous écoute elle à Paris. Un salut à Roman à Cuba, à Jasmine et Mahaman à Niamey, à Yacouba à Maradi au Niger également. Et merci, un grand merci à Amadou Tobé à Thiès au Sénégal. Il nous a envoyé une superbe carte postale. Suite d'une semaine d'actualité, alors ce reportage à Bamako sur les Dogons vous a fait dire qu'il fallait parler, à juste raison d'ailleurs, de l'action culturelle de l'ONU avec cette grande agence qui est à Paris d'ailleurs, qui est l'UNESCO.
L'UNESCO, voilà, puisque l'UNESCO depuis 1972 a établi la liste du patrimoine mondial qui compte aujourd'hui plus de 1000 sites. C'est très important, mais on a vu très vite un déséquilibre entre le Nord et le Sud. Il y avait beaucoup de sites classés en Europe et très peu en Afrique. C'est pourquoi depuis les années 2000, l'ONU et l'UNESCO a créé la liste du patrimoine immatériel pour recenser des cultures, des traditions, la richesse patrimoniale vivante. Et voilà, les Dogons du Mali, c'est aussi une culture, les traditions, etc., qui font la richesse culturelle de l'Afrique. Donc ça, c'est quelque chose d'important que fait l'UNESCO.
Et c'est une autre action invisible presque, oui, de l'ONU que l'on critique tant à cause de son impuissance politique, mais il faut répéter qu'il n'y a, oui, pas que la politique.
Oui, oui, oui. Il y a beaucoup d'autres actions de l'ONU qui sont très utiles, comme des études, des rapports, des actions de protection, l'action de sauver des vies aussi de manière humanitaire ou alimentaire. Donc il y a beaucoup d'actions utiles et de valeur qui sont faites par les Nations Unies.
Alors il y a la grande question des droits de l'homme et la difficulté qu'ont les Nations Unies, alors pour le coup, de défendre ces droits de l'homme avec ce Conseil des droits de l'homme de Genève, Commission des droits de l'homme anciennement, qui est constamment critiqué parce que souvent ce sont les violateurs des droits de l'homme qui dirigent les travaux de cette commission.
Oui, voilà, la commission des droits de l'homme avait été critiquée puis supprimée parce que souvent les pays qui siégeaient, c'était des pays qui se mettaient à l'abri en fait des possibles critiques contre leur action sur leur sol. Il a été remplacé depuis les années 2000 par le Conseil des droits de l'homme, mais qui est critiqué aussi, et aussi le haut commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, qui est Zaid Ra'al Al Hussein, un prince jordanien, a fait l'objet de critiques aussi, parce que il n'est pas très actif pour protéger les droits de l'homme, et en plus il semble avoir voulu étouffer l'affaire des abus sexuels d'enfants par des casques bleus en Centrafrique. Donc dans ce domaine de l'action pour les droits de l'homme, malheureusement l'ONU a quelques difficultés. Et ces grands textes très progressistes, comme la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, sont souvent pas vraiment appliqués. Et puis, rien n'est fait. On va dire, comme c'est une déclaration, il n'y a pas de force contraignante, il n'y a pas de sanctions faites pour les faire appliquer en pratique, malheureusement.
Puisqu'on parlait du Congo, il faut rappeler que la plus forte, la plus grosse mission de maintien de la paix de l'ONU aujourd'hui est en RDC.
Oui, voilà, il y a 9 opérations de maintien de la paix de l'ONU en Afrique aujourd'hui, dont en RDC. C'est une grosse opération. Ça fait depuis des années que l'ONU est impliquée, et historiquement, l'ONU, depuis les années 60, avait commencé à agir au Congo.
Sur les droits de l'homme, général qui est mort dans un contexte historique au Congo.
L'accident d'avion, Dagmar Hirschfeld. Et l'ONU, en 2016, a répertorié plus de 51 000 violations de droits de l'homme en RDC, soit 30% de plus qu'en 2015, notamment par la police, par des agents étatiques. Et en tout cas, c'est utile que l'ONU recense ces violations de droits de l'homme pour alerter l'opinion mondiale à ce sujet.
Alors, une dernière chose, une dernière question, Chloé. Vous allez donc publier bientôt une histoire de l'ONU à travers ses secrétaires généraux. Il faut rappeler que la fonction de secrétaire général n'est pas vraiment bien définie dans la charte, et qu'elle est importante que si le secrétaire général fait preuve, j'allais dire, de caractère.
Oui, c'est important que ce numéro 1 de l'ONU soit quelqu'un qui ait du charisme, du caractère, et qu'il fasse mieux connaître l'ONU dans l'opinion publique, qui donne une bonne image de l'ONU. On peut déplorer aujourd'hui un manque de visibilité de l'ONU et de ses agences dans l'opinion mondiale. Parmi les secrétaires généraux les plus influents, il y a eu Kofi Annan, qui a été important, qui a impulsé
devenu
beaucoup
une star
d'idées.
De la diplomatie.
C'est vrai, qu'il a impulsé beaucoup d'idées novatrices pour l'ONU. Et puis aussi Dagmar Hirschfeld, qui était, comme vous avez dit, mort dans cet accident d'avion, et qui a été très très charismatique aussi autour de 1960. Sinon, on peut déplorer que dans les autres
que d'autres soient tombés totalement dans l'oubli.
D'autres soient tombés dans l'oubli. Voilà.
Merci Chloé Morel. Vous avez notamment écrit une histoire des idées des Nations Unies, l'ONU en 20 notions, un livre publié chez L'Armatan en 2015. Et il y a donc ce prochain livre, Histoire de l'ONU à travers son secrétaire général, publié où ?
Édition du Croquant.
Merci Chloé Morel.
Merci.
Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Ravansky. On se retrouve demain pour le magazine Idées, une émission que nous vous proposons d'écouter de préférence sur le site, car sa diffusion sera à la radio, sera en partie perturbée par la canne. Nous vous proposerons une rediffusion de notre émission sur la notion de République avec l'historien spécialiste de droit public Frédéric Rouvillois demain dimanche 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.